Cette émission Aréopage est aujourd'hui placée sous le signe de la Méditerranée. Et oui, et cela grâce à Monique Serrault-Chaibi. Bonjour Monique.
Bonjour.
Et grâce aussi à Fozia Zedam. Bonjour.
Bonjour
à toutes les deux. Et merci de nous proposer voilà, cette thématique de la littérature du Maghreb et de la Mauritanie pour aujourd'hui, avec deux auteurs à l'affiche, Maïssa Bey et Berouk, Mbarek Ould Berouk. On commence par Maïssa, Monique.
Eh bien, commençons par Maïssa.
Son dernier roman.
Alors, son dernier roman que j'ai sous les yeux, qui est paru chez L'Aube, Nulle autre voix.
Alors, il a eu beaucoup d'estime dans la presse, ce roman de Maïssa Bey.
Oui, il montre un tournant dans l'écriture de Maïssa, parce que c'est... Bon, elle a toujours écrit sur la cause des femmes. Elle est très engagée.
Peut-être on peut rappeler qui est Maïssa Bey, même si c'est une écrivaine connue. Mais elle est de quel pays?
Non, mais j'allais y venir, ne t'inquiète pas.
Ah, c'est
pas.
Bien. Ah, mais voilà. J'ai oublié que j'avais affaire à une professionnelle de la radio.
N'exagérons rien. Donc, Maïssa Bey est née en 1950 à Gzar el-Boukhari, c'est pas loin d'Alger. Elle vit toujours en Algérie, à Sidi Bel Abbès, où elle a enseigné. Maïssa Bey, c'est son nom de plume. En fait, elle s'appelle Samia Benhammer. Elle avait un père qui était instituteur et qui était épris de liberté, qui était engagé au FLN, qui a été tué pendant ce qu'on appelle les événements d'Algérie. Quand elle était toute petite, même avant d'être scolarisée, elle allait dans la classe de son père, écouter les leçons que celui-ci prodiguait à ses élèves. Donc elle a écrit, elle a lu et écrit très tôt. Elle s'est très vite intéressée à tout ce qui était connaissance. Et
un petit Marcel Pagnol.
Voilà, un petit Marcel de l'autre côté de la Méditerranée. Elle a toujours plus ou moins écrit. Elle était en avance au niveau scolaire. Elle a eu son bac à 17 ans. Elle était au lycée Fromentin à Alger. Elle est ensuite entrée à l'université. Elle a été professeure de français, donc à Sidi Bel Abbès où elle vit toujours. Et donc elle raconte qu'elle a toujours aimé la littérature, qu'elle s'est beaucoup nourrie d'auteurs et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles au départ elle ne cherchait pas à être romancière. Parce que quand on lit beaucoup d'excellents romans, on se trouve quand même un petit peu fragile par rapport à ceux que l'on admire. Donc elle n'a pas eu le projet d'être romancière, mais elle écrivait beaucoup pour elle. Et puis il y a eu les années 90, les fameuses années 90 où il y a eu beaucoup de massacres en Algérie. Et là où elle s'est sentie presque obligée de témoigner. Donc c'est là qu'est sorti son premier roman.
Voilà, une nécessité.
C'était une nécessité, c'est toujours une nécessité. Son premier roman est sorti en 96. Depuis, elle a toujours écrit, il y a eu beaucoup de livres d'elle qui ont été édités. Et bon, je pourrais en citer deux, trois. Bleu, blanc, vert qui est assez important dans la mesure où ces trois couleurs sont le symbole du passage de l'arabisation après 62. C'est-à-dire que les instituteurs français, comme en France, ils corrigeaient les devoirs des enfants avec du rouge. Les enfants écrivaient avec du bleu sur des pages blanches. Mais ça faisait bleu, blanc, rouge. Donc il a été... instituer le vert à la place du rouge pour que ça ne rappelle pas le drapeau français. Il y a eu Pierre et Cendre, l'avant-dernier roman qui est très intéressant aussi, qui s'appelle Isia, qui peut rappeler la fameuse Isia, qui était une femme morte très jeune, mais qui avait une personnalité assez forte. Et celui-là, Nulle autre voix, c'est un duo, ça dépend les pages, entre une femme qui est sortie après 15 ans de prison et qui se retrouve cloîtrée chez elle, et une écrivaine qui vient chez elle parce qu'elle a l'intention d'écrire un roman basé sur son histoire.
Alors, est-ce qu'il y a, parmi ces romans que vous avez cités, Monique Serrault-Chaibi, des convergences, des thèmes qu'on retrouve comme ça
On retrouve souvent justement la situation de la femme. Alors, Maïs Abbé, dans une de ses... dans un des débats, explique que quand on parle de femmes libres, et ce n'est pas forcément dû qu'aux femmes du Maghreb, mais même en France ou autre, femme libre, on a tendance à penser que c'est une femme qui fait ce qu'elle veut de son corps, et ce n'est pas ça une femme libre. En Algérie, pour être libre, il faudrait déjà choisir son mari, choisir si on a le droit de divorcer, choisir de travailler... être libre, c'est aussi exister aux yeux des autres. Or, être une citoyenne à la même enseigne que les hommes. Ne pas être mal vu quand on sort seul, quand on décide de ce que l'on veut. Or, c'est vrai que pour les gens, si on dit femme libre, ça veut tout de suite dire une femme facile. Donc, c'est un peu son credo. C'est de lutter sur ce côté archaïque de la vision de la femme.
Et dans ce roman, est-ce qu'elle a accentué cette revendication ou cette lutte?
Et même au niveau de l'écriture, elle a une écriture beaucoup plus crue que dans les autres romans. Elle contournait dans les autres romans certaines choses. Là, elle y va carrément. C'est bon, la femme qui est le sujet principal de ce livre. Donc, elle a fait 15 ans de prison parce qu'elle a tué de sang-froid son mari.
Ça peut paraître comme ça particulièrement
d'autant qu'on a l'impression
impardonnable.
Voilà, c'est une femme qui semble ne pas avoir de sentiments, qui n'a ni remords ni regrets. Son acte, elle l'a pensé, elle l'a assumé. Comme elle a assumé ses 15 ans de prison, elle estime qu'elle méritait la punition qu'elle a eue.
Elle n'a pas de regrets.
Elle n'a pas de regrets. L'homme qu'elle a épousé, ça a dû être un homme qui lui a été imposé, bon, qui l'a beaucoup battu, qui l'a humiliée, qui ne l'a jamais vue comme une compagne, mais plutôt comme une femme de ménage, une cuisinière, et puis une partenaire de lit. Mais elle n'a jamais réussi à parler. Elle a préféré la violence à la parole.
Est-ce qu'elle a eu des enfants, cette femme?
Elle n'a pas eu d'enfants, et elle le dit elle-même, que Dieu lui a envoyé cette chance de ne pas avoir pu se reproduire. Donc, elle revient dans l'appartement qu'elle habitait avec son mari après ses 15 ans. L'appartement a été complètement changé par son frère, la seule personne qui a encore de vagues contacts avec elle.
Son voisinage, elle n'était pas du tout considérée. On n'a pas compris ce geste.
Et on continue à la considérer. Elle a une étiquette, la criminelle. Et donc, elle n'est vue par les gens que sous ce pseudonyme, enfin, sous cette appellation. Et donc, il y a ce duo qui commence avec ces deux femmes, chacune dans son monde, parce que l'écrivaine, elle parle peu de sa vie privée, mais on sait qu'elle a un mari, un enfant, et elle semble être heureuse en ménage. Elle est très coquette, très élégante, alors que la personne qui est sortie de prison n'a jamais été, même avant, quand elle était jeune, n'a jamais été ni une jolie femme, ni une femme qui s'intéressait à sa séduction. Elle a toujours été en retrait. Elle est toujours enfermée dans ses haines, dans son malheur, alors que l'autre semble appartenir au monde, être épanouie et être finalement libre, justement.
Mais est-ce que dès ses premières années de mariage, elle était déjà comme ça, cette femme? Ou est-ce qu'elle s'est comme ça, comment dire, dégradée ou... appauvrie spirituellement, intellectuellement?
Non, on a l'impression que déjà le mariage lui a été imposé et que dès le premier jour, alors peut-être qu'elle ne pensait pas tuer son mari, peut-être qu'elle ne savait pas que cet homme serait aussi froid et aussi violent avec elle, violent dans les gestes, mais violent aussi par son mépris, par sa manière de la considérer comme une chose. Donc elle n'a pas sans doute songé tout de suite au... Mais elle ne l'a jamais aimé et elle a accepté le mariage comme on accepte un sacrifice.
Fozia, vous allez intervenir tout à l'heure sur Barouk, hein, le roman de Barouk, mais peut-être... Barouk. Mais vous avez toutefois lu ce livre de Maïs Abbé.
Moi, ce que je voulais dont tu me parles, c'est effectivement cette rencontre entre ces deux femmes. Elles se rencontrent comment
Qu'est-ce qui fait qu'elle va interviewer?
Voilà, qu'est-ce qui fait effectivement?
Justement, c'est ce que l'héroïne pense à un moment. Elle se demande pourquoi elle l'a choisi, elle. Mmh. Est-ce qu'elle a regardé dans les faits divers, qu'elle a regardé plusieurs criminels et que finalement elle a mis le doigt sur elle? Elle ne sait pas. Il y a beaucoup de manques dans. Il y a tas de questions dont elle n'aura jamais les réponses. Et bon, je ne raconterai pas la fin. Mais
vaut mieux.
voilà. Mais c'est assez intéressant de voir l'évolution d'entre ces deux femmes. Au début, elles se regardent comme deux chiens en chien de faïence.
Oui, les conversations ne sont pas tout de suite fluides.
Non, non, non.
Il y a des réticences de la part et de l'une et de l'autre, probablement.
Tout à fait, tout à fait. Il y a un monde entre elles deux. Mmh. Et finalement, il y en a une qui est là pour écrire et pour avoir matière à son enquête. À son écriture.
Ouais.
Elle ne s'intéresse pas forcément à la personne, mais au personnage. Et quant à l'autre, elle ne sait même pas pourquoi elle a accepté que cette femme vienne. Au début, elle en est même assez gênée, ça l'agace et tout.
Même, je crois qu'à un moment donné, elle va même renoncer à lui ouvrir la porte.
C'est ça.
Elle a beau être chez elle, elle renonce à la visite.
Et puis finalement, elle se rend compte que quand l'autre ne vient pas, ça lui manque. Ça nourrit quand même sa vie, puisqu'elle ne sort que pour aller à l'épicerie du coin, pour aller remplir son frigo. Elle ne voit, les voisins ne lui parlent pas, n'ouvrent jamais leurs portes. Elle est enfermée dans son appartement. C'est là d'ailleurs que je trouve qu'il y a un point commun
avec
le personnage de Bérouk. Oui. Et donc cette personne, elle lui apporte l'air du dehors, elle lui apporte le soleil, elle lui apporte...
La vie.
La vie, oui. Voilà. La vie qu'elle n'a jamais eue. Alors elle est à la fois admirative envers cette personne, et en même temps, elle se rend compte... À un moment, elle met le mot dessus, elle se rend compte qu'elle est jalouse. Et donc, déjà, être jalouse, c'est un sentiment. Donc, la personne évolue, parce qu'on se rend compte que finalement, ça n'est pas qu'un bloc... c'est qu'elle est aussi capable de ressentir des choses. Là, il y a des choses qui vont venir après, mais qu'il faut laisser le lecteur découvrir.
Alors, on y reviendra sûrement quand nous parlerons avec Fawzia de Bérouk, Je suis seule. Pour l'heure, on vous propose une courte pause musicale pour nous remettre de nos émotions.
Thank you.
Pour cet aréopage, nous vous le disions tout à l'heure, nous sommes dans la Méditerranée, en Méditerranée, sur les bords de la Méditerranée, du côté du continent africain. Nous avons évoqué avec Monique Serro-Chaibi le dernier roman de Maïssa Ibé, Nulle autre voie. Et dans cette deuxième partie, nous allons évoquer un écrivain mauritanien, un homme, Berouk, Barek Ould Berouk, qui vient de sortir « Je suis seule ». Alors Fauzia, vous avez lu ce texte.
Exactement, donc on va continuer à voyager en Mauritanie cette fois-ci, donc ça va nous changer. Alors c'est un auteur, donc il s'appelle, on va faire connaissance dans un premier temps avec lui, donc il s'appelle Barek Berouk. Il est né en 57 d'un père instituteur, donc à l'école coloniale. Il grandit un peu entre Voltaire et un environnement tribal, traditionnel, avec les griots. Sa ville natale, c'est Attar, hein, qui se situe dans le nord de la Mauritanie. Et donc voilà, en plein désert, quoi. Voilà, donc il est journaliste, puisqu'il a une formation de journaliste. C'est un fervent défenseur de la liberté et de la presse. Il part à Nouakchott pour donc apprendre le droit, et puis il crée le premier. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, en 88, il crée le premier journal indépendant du pays qui s'appelle Mauritanie Demain. Et puis après, il vient sur Paris où là, il écrit des articles effectivement pour Jeune Afrique. Et puis il revient en Mauritanie parce que je pense que c'est un homme qui est très très attaché au désert et donc à son pays. Enfin, pas vraiment à son pays bien sûr, mais plutôt au désert, à cet espace qui est le désert qui vraiment implique tous ses romans d'une manière très profondément, entre effectivement le journalisme, sa fonction, et puis cet espace qui est quand même grandiose et qui suppose des tas de choses et évoque aussi à la fois le voyage, mais aussi le mystère, je pense.
Donc là, c'est son troisième roman.
Oui.
Quatrième, non ?
Il a écrit effectivement en 2006 Le ciel a oublié de pleuvoir, hein, qui a été récompensé par le prix Coup de cœur. Donc voilà. Il suivit effectivement en 2010 d'un recueil, Nouvelles du désert. En 2013, il écrit Le griot de l'émir. Et en 2015, Le tambour des larmes.
Donc c'est le cinquième. Voilà,
oui, c'est le quatrième, effectivement.
Donc troisième roman, mais quatrième texte, on va dire, publié.
Non.
Les autres sont des nouvelles.
Oui, quatrième roman,
oui.
Et cinquième.
Voilà,
oui, pardon.
Les autres sont des nouvelles. C'est donc ça. Je suis seule.
Voilà. Alors, pour résumer, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais pour résumer, donc, c'est le soliloque d'un homme caché dans un appartement alors que sa ville est tombée sous les jougs djihadistes.
On connaît la ville ou est-ce que c'est une ville
Non, c'est une ville qui est au bord du désert, effectivement. Mmh. Et lui, il est journaliste, comme par hasard. Et donc, il se retrouve dans un appartement glauque, enfermé. Et il repense effectivement à tout ce qui l'a amené effectivement à vivre cette situation. Donc il fait un flashback en arrière de tout ce qui l'a amené, de toutes les rencontres qu'il a pu effectuer autour de lui, de sa progression aussi, puisqu'il est issu effectivement d'une famille nomade mais pauvre. Et il a toujours eu envie effectivement de... Le narrateur dit qu'il a toujours eu envie de s'émanciper, je veux dire, de gagner de l'argent, de vivre autre chose. Et donc il a fait effectivement, il s'est allié avec le maire d'une ville et il a participé à des choses qui n'étaient pas très claires et il a renoncé d'ailleurs à son amour. Neza, il a renoncé à son amour pour épouser une autre fille, effectivement, une autre personne qui était riche, donc la fille du maire. Et justement, ça se retourne un petit peu, puisque dans cet appartement, ce qui le sauve, c'est justement cette Neza qu'il a abandonnée lâchement. Et donc, du coup, c'est cet enfermement qui le pousse à faire un flashback sur sa vie, ses rencontres, et surtout à se poser des questions sur son pays. Et ce qui a amené effectivement des changements importants, je veux dire, puisque effectivement il y a eu des, Il y a eu le terrorisme qui est apparu dans cette partie du désert ou cette partie de l'Afrique.
Donc, en fait, est-ce que ce texte est un long monologue de cet homme? Comment ça se construit tout ça? Est-ce que c'est vraiment des pensées qui lui arrivent et qui sont retranscrites pour faire ce roman?
Mais effectivement, il raconte son histoire et à côté de ça, il remet les choses au présent. Donc une partie de sa vie revient, sa rencontre avec Neza, sa rencontre aussi avec ses différents amis qui eux basculent du côté obscur de la chose, on va dire, donc du côté des djihadistes, des terroristes. Et donc il reconstitue des dialogues qu'il a eu avec lui, des scènes qu'il a vécues avec eux et effectivement, il revient sur son enfermement dans cet appartement, même dans cette chambre.
Il est contraint de ne pas sortir.
Pour se sauver, il a rencontré Neza et elle l'a prévenu effectivement que sa tête était mise à prix. Donc elle lui a proposé de le suivre dans cet appartement et donc il s'y cache. Et elle est repartie puisqu'elle avait effectivement, elle devait travailler. Et donc lui, il attend son retour, son éventuel retour. Et là, il se pose la question de savoir si effectivement elle va revenir, si elle va le sauver, si elle va pas avoir cette rancune effectivement de ce qu'elle a, le fait qu'il ait abandonné il y a quelques années pour se marier avec une femme plus riche et pour sortir de sa pauvreté. Donc c'est un roman qui met effectivement qui à la fois qui parle du djihadisme, de l'exclusion, de la corruption, de la misère qui est le terreau du terrorisme. Et puis ces rapports entre homme-femme, ces espèces d'ambiguïté, cette envie de s'en sortir. Et lui, à un moment donné, il a été prêt à tout pour s'en sortir, quitte à renier effectivement ses principes, à sa loyauté de sa tribu, parce qu'il revient effectivement souvent sur ses ancêtres, Nasser Din, qui fait partie de ses ancêtres du XVIIe siècle. Il revient effectivement à ses propos et il a toujours en tête sa mère qui lui racontait les exploits de ce Nasser Din qui lui aussi à un moment donné a appelé à ce djihad, cette guerre sainte. Voilà. Mais ce qui est bien dans ce roman, c'est un roman qui est court, qui est simple à lire, mais ce qui traduit aussi cette espèce d'enfermement qu'on a aussi. D'enfermement dans sa tête, d'enfermement dans ses prises de position qu'on a du mal surtout à sortir. Et puis aussi, parce que lui, c'est deux thèmes récurrents. C'est le journalisme, parce que bon, c'est vraiment sa passion. Et puis c'est cet espace qui est le désert, qui est immense, où il se passe énormément de choses. Et c'est vraiment un écrivain du désert. Il écrit par rapport à cet espace de liberté. Et donc, c'est une autre façon de voir, effectivement.
Excuse-moi. Monique, allez-y, Monique.
Vous êtes très poétique.
Voilà aussi.
C'est une écriture poétique pour vous, Monique.
Oui, et on sent un griot derrière. Parce qu'en Mauritanie, il y a l'influence aussi bien des Arabes que des Africains. C'est un mélange des deux. C'est donc un endroit du Maghreb où l'écriture est très différente des pays autres. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, pas du tout. Non, c'est bien. Donc voilà, je trouve que c'est important de voir le... Parce que bon, le terrorisme, c'est quelque chose qui est quand même d'actualité. C'est quand même, voilà. Et de le voir effectivement par un écrivain mauritanien du côté africain. Je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Et lui, il ne se sent pas attaché... Bon, là, il est mauritanien. Mais il ne se sent pas attaché à ce pays particulièrement. C'est vraiment l'espace en lui-même, puisqu'il, son grand-père est marocain et sa grand-mère est malienne. Donc voilà, il est aussi le mélange, le produit de cette histoire, de ce désert, et c'est ça qui est formidable. Et ça se sent dans ses écrits.
Alors, à vous entendre, Fozia Zedam, on a l'impression aussi d'un livre bilan. Comme si cet homme-là, il est certes amoureux des espaces, mais il est dans cet espace étroit. Et que ça lui permet de revisiter et sa vie, et ses relations, et ses engagements, à vous entendre.
Oui. Bilan, je pense pas, non. C'est plutôt... il est plutôt à une charnière de sa vie où peut-être que les choses ont basculé. Il ne sait pas comment sa vie va continuer, puisqu'il a aussi des choses... Il s'aperçoit qu'effectivement, il a été lâche sur certaines choses, mais qu'il avait les raisons. C'est souvent cette ambiguïté qui effectivement c'est la raison et puis les grands principes dont on a envie, dont on se nourrit. Et donc c'est cette ambiguïté-là qui, sur laquelle il revient. Et puis avec cette incertitude, en ne sachant pas trop ce que sa vie sera demain. Mmh. Donc oui.
Monique Serrochaibi, vous avez aussi lu
aussi
ce livre.
C'est aussi ce qu'il y a de commun entre, oui, entre le dernier roman de Maïssa et le dernier roman de Bérouk. C'est une espèce de charnière. Et une colère qui apparaît, qui n'était pas forcément dans les précédents livres. Moi, je trouve qu'il y a un peu ça.
Il y a une colère chez Bérouk, dans ce texte-là, dans Je suis
non,
seule.
Non, c'est pas forcément le mot non. colère. Ça va peut-être un peu trop loin non. quand je dis colère. Mais bon, comment dire, c'est pas une haine non plus, mais bon, c'est vrai que le terrorisme est quelque chose d'important, qu'il y a eu des attentats.
De violents, de puissants.
En Mauritanie, à un moment, il y a eu des Français qui ont été tués en Mauritanie. Ça a l'air pour l'instant d'être un petit peu calme, mais bon, et c'est vrai qu'il y a cette envie de dénoncer des choses. Quoi.
Dénoncer, oui, mais pas colère.
Non,
je
non,
pense
oui,
pas.
Non, mais je pense que le mot était trop fort.
Voilà. Oui, dénoncer, oui, parce que il est. Il se rend compte que ses amis, il a grandi avec des amis qui ont basculé de l'autre côté, et il essaye effectivement de nous donner comme ça des pistes pour comprendre les choses, mais de ce côté-là effectivement de la Méditerranée. Et j'ai l'impression que c'est comme une pause dans sa vie où il se pose, et pas colère parce que effectivement issu de la tradition griotte. Je pense que il y a une agressivité qui est très contenue, qui est très on est plutôt dans l'évocation. On relate, on évoque, on essaye de comprendre. On ne juge pas, mais on essaye de comprendre, quoi.
Alors, Fauzia et Monique, si on devait faire un parallèle entre ces deux livres que vous avez réunis là dans cette demi-heure qui les consacrée. Donc, Maïssa Bey, Nulle autre voix, et Bérouk, Je suis seule. Comment est-ce que vous les reliriez ?
Alors, déjà, ce que je disais au départ, c'est que finalement, le lieu des deux romans, c'est un enfermement. Un lieu.
Exactement, l'appartement de l'écrivaine, plutôt de la prisonnière.
On peut dire aussi que dans le livre de Bérouk, effectivement, le personnage lui ressemble dans la mesure où il est journaliste comme lui, comme dans une autre voie, il y a une écrivaine qui vient au-devant de quelqu'un en vue d'écrire un roman. Donc ça fait déjà deux points qui sont communs. Je ne sais pas si tu en vois d'autres.
Ouais, moi, je résumerais ça simplement par l'enfermement de l'esprit.
Ouais. Oui,
qui,
c'est
moi,
ça.
C'est ce que j'ai ressenti dans les deux romans. Et je pense que c'est ça. Je veux dire, quand on commence à en s'enfermer, rien de plus délicat que de ne jamais douter. Voilà, de ne jamais douter et de se plonger dans quelque chose sans même réfléchir, cette espèce de rancœur comme ça. Et oui, c'est l'enfermement des deux, effectivement, parce que ça...
Alors, on parlait aussi de cette prisonnière sur lequel les voisines portent un regard, accusateur. Est-ce que le voisinage sait que Bérouk est enfermé, a connaissance de sa présence dans cet appartement ? Comment est-ce que c'est perçu par... Alors, donc, quel est le regard, alors, de son amie, de sa compagne ? Quel est le regard qu'elle porte, elle, sur cet homme ?
Elle
le comprend.
Elle a de la tendresse. Elle a de la tendresse. Il fut son premier amour, donc elle le regarde avec attendrissement. Mais elle le comprend.
Est-ce qu'elle le juge ? Non.
Je pense pas qu'elle le juge. Je pense pas qu'elle le juge. Mais elle est attentive à lui et elle n'aimerait pas qu'il lui arrive des choses,
elle
des mauvaises
protège.
Choses. Quoi.
Elle
voilà,
le protège
quoi, ouais. C'est ça. Quant à l'environnement du voisinage, non, il n'y en a pas. Ça, c'est une espèce
non,
de mi-clos, de vie-clos.
S'il y avait l'environnement, il serait dénoncé. Quoi.
Voilà.
Lui, vraiment.
Voilà.
Donc, accusé, dénoncé.
Exactement, ouais. Parce que c'est cette espèce de sentence. Quoi. Est-ce que je dois payer, effectivement, pour les erreurs du passé ? C'est un peu ça qui est sous-jacent. Hein. Est-ce qu'on paye pour les erreurs, pour cette lâcheté ? Mais à côté de ça, ceux qui sont en face, ceux qui se disent djihadistes, qui en plus ne connaissent rien du Coran, qui le font par opportunisme, eux aussi font des exactions, eux aussi font des choses qui ne sont pas plus... Donc voilà, c'est quel prix à payer pour la liberté aussi. C'est tout ça qui est un peu sous-jacent.
Est-ce que vous diriez que ce héros-là est une victime d'un système, comme peut-être cette femme prisonnière qui a tué son mari, mais est-ce qu'elle n'est pas non plus elle aussi victime d'un
bien
système?
Bien sûr qu'elle est victime. Bien sûr.
Ouais, victime.
Est-ce qu'il serait victime aussi ce journaliste finalement?
Je sais pas, victime. Le mot me gêne un peu. Mm-hmm. Voilà, parce qu'à un moment donné, il a eu le choix. Il a eu le choix quand c'était à un moment donné quand il devait épouser Neza. Il a eu le choix de cette vie-là. Voilà, mais il ne souhaitait pas. Effectivement, il ne souhaitait pas puisqu'il voulait une autre vie, il voulait une vie plutôt mondaine. Donc, il a eu le choix effectivement de fréquenter d'autres gens, d'être dans une autre société, de fréquenter une femme qu'il n'aimait pas, d'épouser une femme qu'il n'aimait pas, et donc du coup de fréquenter des gens qui étaient un petit peu malfaisants et de contribuer à un état de corruption. Donc, il a eu le choix. Donc, victime, je ne sais pas.
Bien. Merci. Merci à toutes les deux.
J'espère que ça aura donné envie.
Oui, il faut lire.
Ça va dépendre de votre alors, vos talents à l'une et l'autre.
Ce que tu as oublié de dire, c'est que le livre est aux éditions Elisade. Je suis seule.
Elisade, qui est une maison d'édition. Elisade, une maison de cordes.
D'édition tunisienne, qui est vraiment une très grande maison d'édition, qui a des auteurs fabuleux.
Donc, et Bérouk, je suis seule, aux éditions Elisade.
Et L'Aube, nulle autre voix, de Maïs Abbé.
Aux éditions de l'Aube.
Et j'ai oublié de dire, mais c'est important, puisqu'on parlait de Maïs Abbé et de la cause des femmes, qu'elle est une des éditrices de la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée, qui est sur Montpellier. Et les deux écrivains ont donné un texte pour le recueil sur les réfugiés, Au cœur de l'errance. Je perds jamais le nord.
Donc, le
Au cœur de l'errance, qui est vendu,
édité,
qui est vendu au profit de SOS Méditerranée, que je vous conseille de lire. Il y a 55 écrivains et 10 illustrateurs qui ont donné des textes magnifiques au profit de cette association qui tente, avec beaucoup de difficultés maintenant, mais qui continue à œuvrer pour sauver les réfugiés. Et il y a eu une centaine de morts trouvées sur les plages de Libye hier. Il y a de plus en plus de morts en Méditerranée. Malheureusement, il y a de moins en moins de journalistes pour reporter les faits. Mais il ne faut pas oublier les réfugiés.
Merci Monique Serrochaibi. Vous avez présenté Nulle autre voix, le dernier roman de Maïs Abbé aux éditions de l'Aube. Et merci à vous, Fauzia Zedam, pour la présentation de Je suis seule de Bérouk aux éditions Elisade. Au revoir.
Au revoir et bonne lecture à tous.